Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Ewo, biba, bilalo.
Baba masila neno bema be wunde odiba masango mena basandi no tobo so bison botiti omba teneni bama pe manonde oliye neni be nombo deke to lambo dititi la pema wumate. Babo bama sila neno bema be wunde odiba masango mena basandi no tobo so bison botiti omba teneni bama pe manonde oleye neni be nombo deke to lambo ditidi la pema wumate.
C'est un hommage que nous allons rendre cette semaine dans l'épopée. Il y a 20 ans, le 28 mai 2001, une grande figure du XXe siècle nous quittait à l'âge de 71 ans. Il était un homme de lettres, un poète, un libre penseur, un compositeur, un interprète, un observateur attentif de son temps et un pionnier de la sono mondiale. Pour évoquer Francis Bébé, nous avons convié deux personnalités qui l'ont bien connu, Patrick Bébé et Vincent Mahé. Messieurs, soyez les bienvenus.
Merci. Merci, bonjour.
C'est à la faveur d'une réédition que nous avons souhaité vous accueillir aujourd'hui, car l'album 10 billets, paru en 1997, est à nouveau disponible, agrémenté de quelques bonus que nous détaillerons tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs les plus jeunes l'importance de Francis Bébé dans l'univers de la création artistique. Pourquoi était-il et reste-t-il un personnage que l'on doit connaître, Patrick Bébé?
Pourquoi? Parce que... il a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes, en fait. Il a mélangé, dans les années 70, vraiment des instruments totalement électroniques à sa guitare acoustique pour commencer à enregistrer de manière totalement autonome. Et en même temps, créer un son, c'était un des pionniers de la musique africaine, mondiale, j'allais dire moderne.
Moderne, ça marche aussi. Patrick Bébé, vous êtes l'un des enfants de Francis Bébé. Parvenez-vous à prendre de la distance quand vous évoquez votre père?
De la distance, bah non.
Est-ce que vous voyez Francis Bébé l'artiste ou est-ce que vous voyez votre père?
C'est les deux, en fait. Je ne peux pas les dissocier. Alors, j'ai eu un excellent père qui était un excellent artiste.
Vincent Mahé, vous étiez le maître d'œuvre de l'album 10 billets en 1997. Vous avez donc eu le privilège de le côtoyer longuement. Quel souvenir garderez-vous de Francis Bébé et de cette session d'enregistrement?
Alors j'étais un maître d'œuvre, c'était un ouvrage assez collectif, hein, puisque je pense que Patrick, ici présent, est vraiment à l'origine du projet. Et son projet à Patrick, c'était de faire en sorte que Francis puisse enregistrer dans des conditions un peu différentes de celles qu'il avait l'habitude d'utiliser pour ses disques. Francis était très prolixe, C'était un artiste complet, total, qui écrivait, comme vous savez, qui n'avait pas de limite dans sa façon de peindre l'humanité. Et du coup, ce qu'avait repéré Patrick, c'était le fait que ses albums qui font figure de référence jusqu'aujourd'hui, il avait toujours l'habitude de les faire, on va dire, un peu à l'emporte-pièce, même si, en tout cas, il faisait très rapidement les choses et puis il disait « Bon, maintenant, débrouillez-vous avec ça, moi, je passe à autre chose. » Patrick avait envie d'une chose qui soit plus posée, peut-être, qui soit plus produite. Donc, c'est véritablement lui qui a eu cette idée-là de pouvoir amener Francis dans des process qui n'étaient pas les siens, c'est-à-dire de répéter, de faire de la pré-production. ça nous fait rire parce que c'est complètement antinomique avec le personnage. Et donc, je pense qu'il a eu cette amitié de me faire confiance et de me présenter à son papa, qui était pour moi une très grande figure avec laquelle j'avais grandi. On a effectivement pensé à un dispositif qui permette de provoquer quelque chose d'autre. Alors, il ne s'agissait pas de changer son art, parce que ça n'en était pas question une seconde pour toutes les raisons du monde, mais plutôt, encore une fois, sur la façon de fabriquer ça. Moi, je dois vous dire que j'étais très impressionné quand j'ai rencontré Francis, parce que, encore une fois, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'Afrique était quelque chose qui résonnait très fort chez nous. Et Francis Bébé, pour nous, c'était une figure tutélaire absolument incontournable et très importante. Donc j'étais très impressionné, je garde ce souvenir, j'étais très en confiance aussi, parce qu'avec une belle amitié, proximité avec ses fils. Mais donc le souvenir vraiment très très marquant pour moi, c'est notre première rencontre et le fait de m'être senti tellement dans un monde de douceur et de bienveillance. Et de... C'est-à-dire que Francis, j'ai compris à la première seconde que Francis, il allait me faciliter l'histoire. Mmh. Et il nous faisait croire que c'était nous qui gouvernions tout. En réalité, c'était lui qui, évidemment, avait tout fomenté. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas moyen de toute façon. C'était, il avait tellement un chemin tellement fort. Mais il était dans cette très grande douceur qui nous a permis, en effet, de tirer le meilleur de ces moments-là.
Quand on lit les différents articles parus dans la presse autrefois, le mot « malicieux » revient souvent. Serait-ce le meilleur qualificatif pour identifier Francis Bébé ?
Malicieux. Oui, il était... il avait vraiment une façon de quand même détourner les mots assez unique, non seulement en français, et alors encore plus dans notre langue maternelle, le douala, qui est la plus belle langue du monde.
Bien entendu.
Il s'en servait beaucoup.
Ouais. Rappelons que Francis Bébé était né en 1929. Il a donc vécu dans un pays colonisé pendant des décennies. Est-ce que cet esprit malicieux n'était pas justement le fruit de ses états d'âme ?
En fait, j'étais en train de réfléchir à l'histoire de la date de naissance. Déjà, ça, c'est le premier coup de malice, à mon avis, parce que officiellement, sur ses papiers, il était né en 1929. Mais il était né à une époque où, quand on était enfant en Afrique, notamment au Cameroun, on ne pouvait rentrer à l'école élémentaire qu'à l'âge de 10 ans. Et donc, ses parents ont eu l'idée de le vieillir un petit peu, mais ils ne pouvaient pas dire si c'était de 1 an, de 2 ans, de 3, pour qu'il puisse rentrer à l'école un peu plus tôt, quoi. Premier coup de malice.
Pendant longtemps, Francis Bébé a dû se satisfaire d'une éducation européenne. Il étudiait Bach, Handel, plutôt que les musiques traditionnelles camerounaises. Est-ce que vous avez ressenti, Vincent Mahé, lorsque vous avez produit ce disque d'Ibillé, qu'il cherchait à se détacher de cette culture occidentale qu'on lui avait imposée durant sa jeunesse ?
Non, j'ai pas du tout senti ça. Ce que j'ai senti, c'est qu'il était l'incarnation vivante de la possibilité de rendre proche des univers si éloignés. Et je pense qu'il avait cette façon unique, véritablement, parce qu'effectivement, son éducation, les ancêtres, les Gaulois, comme il aimait le dire, donc il y avait ça fortement avec une famille qui lui a donné une culture très forte dans un pays colonisé. Et simultanément, il s'est intéressé très tôt aux pygmées et aux musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Et pour lui, je pense que c'était des grands écarts qui lui posaient aucun problème. J'ai pas senti du tout sur le disque d'Ibillé. Vous avez effectivement une version de Stabat Mater Doloroso, de sa version magnifique de Stabat Mater, qui cohabite avec d'Ibillé qu'on vient d'entendre, qui est vraiment quelque chose de très transcendantal, qui vient
de ses racines.
Oui, du plus profond de la terre. Et je crois pas qu'il cherchait à se détacher de quoi que ce soit. Il cherchait à embrasser le tout. Et c'est quelque chose que je trouve la plus remarquable, parce que c'est effectivement effectivement faire rapprocher des univers qui sont tellement presque opposés. Et au final, ça fait quelque chose de naturel. Beaucoup ont cherché à le faire. Peu ont réussi, à mon sens.
Dans la réédition de 10 billets, il y a une interview de Francis Bébé qui évoque la sansa, ce petit instrument qui tient une grande place dans les cultures africaines. Et avec des mots choisis, l'homme de lettres décrit le son plutôt que les notes. Était-il un créateur instinctif avant d'être un instrumentiste aguerri?
Ah, je pense que, en fait, il avait une façon d'amadouer n'importe quel instrument qu'il abordait. C'est assez impressionnant. Alors mon frère Toups, qui est lui-même saxophoniste, percussionniste, un jour, notre papa revient avec un saxophone. Et puis, il commence à jouer, mais tout de suite, alors qu'il n'a jamais appris, c'était insensé. Et Toups, qui lui prenait des cours déjà au conservatoire et tout, il disait, comment il fait? Il avait vraiment cette spontanéité et une façon immédiate de pouvoir obtenir quelque chose d'intéressant d'un instrument dont il n'avait jamais joué auparavant.
Je vous propose, messieurs, d'écouter l'inventivité intuitive de Francis Bébé dans le titre Essocam, extrait de l'album 10 billets, à nouveau disponible en 2021, presque un quart de siècle après sa parution originelle. Essocam, Francis Bébé en 1997 sur l'album 10 billets. Patrick Bébé, pour la réédition de ce disque historique, vous avez ressorti votre version de 2004 de Essocam. Cela veut-il dire que le répertoire de votre père n'est plus intemporel et qu'il faut le réactualiser constamment?
Il est intemporel, mais... mais j'aime bien mettre une petite touche de temps en temps. Rappeler que tiens, vous savez... Écoutez ça, parce que bon, nous, à nos âges, bon, c'est normal, mais. Enfin, surtout le mien, mais non, pour moi, c'est vraiment important. Et c'est troublant d'ailleurs de voir qu'il y a des générations, des jeunes, là, d'une vingtaine, 20, 25, 30 ans, qui le découvrent et qui trouvent que c'est vraiment intéressant.
Comment expliquez-vous le fait que ce disque, 10 billets, soit resté un marqueur important dans l'épopée de Francis Bébé, Patrick Bébé?
De mon point de vue, justement, sans vouloir me faire mousser, mais c'est vrai que je voulais vraiment que la façon dont ce disque allait être réalisé, dont il allait être enregistré, lui permette de durer vraiment dans le temps et de marquer au moment où il sortirait. Parce que, comme disait Vincent tout à l'heure, mon père enregistrait dans une chambre à la maison, ou dans le salon, ça dépendait, mais... à toute vitesse, sans prendre le temps. C'était vraiment... Enfin, si, il prenait juste le temps d'enregistrer l'idée qu'il avait et il passait à autre chose, parce qu'en fait, il avait trop d'idées, je pense.
Quand l'album est sorti en 1997, les musiques africaines étaient très bien représentées en Europe, depuis le milieu des années 80, grâce à Mori Kanté, Touré Kounda, Salif Keïta, Papa Wemba, Relema, Ismaël Lo, sans oublier évidemment Manu Dibango, depuis le milieu des années 70. Quel regard portaient tous ces artistes sur l'aîné Francis Bébé, Patrick Bébé?
Beaucoup de respect. Il y avait vraiment beaucoup de respect. J'ai le souvenir d'un concert qu'on est allé faire en Suisse allemande, là, en première partie. Enfin, on jouait dans un festival en première partie de Salif Keïta. C'était assez inoubliable. Salif est venu dans la loge et il s'est agenouillé devant mon père. C'est juste un truc tellement inattendu que j'en parle aujourd'hui. C'était il y a 25 ans. Mais...
Oui, dans ce moment-là, j'étais là et puis je travaillais avec Francis. C'était le Sésame à l'époque. C'était le Sésame. Moi, j'étais dans un milieu très africain. Paris était très africain. De toute façon, c'était vraiment la sono mondiale. En effet, je peux témoigner que Francis Bébé, c'était quelqu'un d'éminemment respecté par tous ces grandes stars d'alors, parce que c'était les grandes stars de la sono mondiale, Salif et Moré Kanté, et ils avaient acquis une notoriété relativement beaucoup plus grande que celle de Francis, mais c'était vraiment un point de référence hyper important pour eux.
Francis Bébé a toujours évolué entre deux mondes. Il a travaillé avec le Kronos Quartet, avec la violoncelliste Sonia Videra-Atherton et même avec le grand guitariste John Williams. Et d'ailleurs, vous reprenez Ngomé, Patrick Bébé, dans les bonus de la réédition de 10 billets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née cette composition et pourquoi vous lui avez redonné vie?
Mais oui, Ngomé. Un jour, John Williams appelle mon père. Et tout. Oui, je voudrais reprendre quelques musiques de toi, mais... il faudrait que tu m'envoies des partitions. Donc, il lui envoie des partitions. Il dit, bon, j'ai bien reçu les partitions, mais est-ce que je peux passer te voir? Est-ce qu'il faudrait que tu me montres un peu? Bon, ben, OK, donc John Williams vient à la maison, tac, tac, mon père lui montre et tout, OK. Il part avec. Et puis, mon père avait écrit cette chanson, Ngomé, que John a interprétée et tout. Et puis, j'ai eu l'envie aussi de donner ma version de la chose.
La version de John Williams est sur un album, si je me souviens bien, qui s'appelait Magic Box.
Exact.
Et votre nouvelle mouture de Ngomé, c'est sur la réédition de 10 billets. Francis Bébé, interprété par Patrick Bébé. Quelques notes de Ngomé par Patrick Bébé dans un enregistrement de 2004, à nouveau disponible sur la réédition de 10 billets, à condition de scanner un QR code. Expliquez-nous la marche à suivre, Vincent Mahé.
Oh, elle est assez simple, je crois. Vous passez votre smartphone devant le petit QR code et vous avez accès à un lien qui vous permet d'écouter et de télécharger le morceau. Et si jamais ça ne marche pas, parce que ça arrive, vous avez aussi un lien direct sur le livret qui vous est donné.
Ou alors on vous envoie une réclamation directement à vous.
Absolument, ce sera avec plaisir. On reçoit toutes les réclamations. Ça fait du contact.
Exactement. Je précise que la réédition de 10 billets paraît sur le label Piwi. Et c'est l'occasion pour vous de relancer cette maison de disques Vincent Mahé, dont vous fûtes l'un des fondateurs. Quelle était l'intention de départ en 1995 ?
L'intention de départ, c'était, je pense, de me rapprocher de ma playlist rêvée. C'est-à-dire que j'exerçais mon métier d'ingénieur du son déjà depuis une dizaine d'années et j'avais déjà quelques heures de route en ayant suivi beaucoup de monde sur la route et enregistré pour les autres maisons de disques. Et puis je pense qu'il y a un désir d'indépendance et de prendre son destin en main et d'essayer de contribuer à la vie du microcosme qui nous passionne en prenant ses responsabilités et en décidant de produire des choses.
Vous avez produit nombre d'excellents instrumentistes à l'époque, par exemple Tania Maria, la chanteuse et pianiste brésilienne, l'harmoniciste réunionnais Olivier Querorio, l'organiste Emmanuel Bex, et vous allez continuer avec d'autres sorties, j'imagine.
Oui, c'est une curieuse histoire, oui, parce qu'il y a eu 26 albums qui ont été fabriqués de 1995 à 2000. Le label a été mis en sommeil pour différentes raisons, parce que c'était une période de ma vie où j'avais autre chose à faire, je pense, puis pour des raisons qui jusqu'aujourd'hui m'échappent. Finalement, le sommeil s'est transformé en sommeil très profond, en coma, et puis j'avais un peu rangé ça au rayon des souvenirs heureux. Et ça fait quelques années que l'histoire me titillait un peu, si j'ose dire, et j'avais vraiment envie de repartir dans cette démarche-là, de produire les choses qui me touchent le plus. Je pense que ce qui m'a retardé dans le process, c'est le fait qu'aujourd'hui, évidemment, vendre un disque, c'est un challenge qui est encore plus fort que celui de l'époque. Et puis c'est une responsabilité en fait que l'on prend d'exposer les artistes qu'on choisit. Donc je crois que c'est cette chose-là qui m'a freiné dans la démarche, mais finalement, il y a eu un moment où l'envie était trop forte. C'est une envie assez déraisonnable. J'ai été très aidé par les nouveaux compagnons, qui sont les gens qui portent le label désormais. Toujours François Hivernat, qui à l'époque était le cofondateur avec moi-même de ce label. Et puis Virginie Crouaille, qui est une amie productrice qui a fait beaucoup de choses avant de rejoindre l'équipe Piwi, quelqu'un de très pragmatique et de très, très impliqué, engagé aussi dans les musiques de ce genre. Et Simon Goubert, un batteur que je ne vous fais pas l'affront de vous présenter, qui est un compagnon de toujours, avec qui on a réalisé beaucoup, beaucoup de disques pour son compte ou pour d'autres, et qui est monté dans le bateau. Alors Virginie et Simon nous ont été très responsables de la reprise et du passage à l'acte, si j'ose dire.
Est-ce que l'effervescence musicale des années 90 vous manque ? Est-ce que vous croyez à un retour à l'enthousiasme, aux projets improvisés, à l'élaboration artisanale des albums tels qu'on pouvait les concevoir autrefois ?
Ce qui me manque des années 90, c'est précisément l'effervescence. C'est une certaine scène. Moi, quand j'ai commencé mon métier en indépendant, c'était vraiment le carrefour de la sono mondiale. Et c'était un carrefour très africain et j'ai adoré ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Patrick et Papa Wemba et avant ça, Relema et Morikanté. Et Morikanté qui venait fabriquer Yeke Yeke en partie dans ma cuisine. Cette effervescence, elle me manque. Disons, je ne suis pas nostalgique. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont formidables aujourd'hui. La scène est... Peut-être que ça ne touche pas seulement la musique, c'est notre société en général est devenu peut-être plus formaté, c'est plus difficile d'être excentrique aujourd'hui. Peut-être que nous, avec la période que nous sommes en train de traverser, on va peut-être toucher
une corde sensible.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une aspiration à se rapprocher des choses qui sont essentielles. Peut-être sortir des sentiers battus, en avoir... On sait que les sentiers battus sont de toute façon tellement rabattus, tellement inaccessibles. Les autoroutes et l'industrie en général sont devenus tellement hostiles et qu'on a peut-être moins peur aussi de se rapprocher de ce qu'on a véritablement envie de faire. Et ça va probablement générer des choses intéressantes.
Est-ce que 10 billets a été réalisé dans un esprit artisanal, Patrick Bébé ?
Non. Pour une fois, on a essayé, en tout cas avec Vincent, de mettre un cadre. Après, effectivement, comme disait Vincent tout à l'heure, Francis nous a fait croire qu'il rentrait dans le cadre. Et que c'est nous qui dirigeons la chose. Mais en l'occurrence, il savait très bien où il voulait aller.
Il y a eu beaucoup de répétitions.
Et on a répété. Pour une fois, on a pris le temps de répéter, d'apprivoiser un peu le lieu aussi, le studio dans lequel on allait enregistrer. Il ne connaissait pas du tout Vincent. Moi, je connaissais Vincent depuis des années, mais c'est important qu'il y ait ce lien humain. Et après, ma foi...
On se laisse porter après.
Voilà.
Sur la réédition, on entend dans les titres bonus Francis Bébé plaisanter sur sa voix. L'humeur avait l'air très détendue.
Oui, oui, oui. C'était très détendu, avec beaucoup de sérieux. On visait quelque chose. Voilà. Et on voulait l'atteindre.
Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait une idée de trouver une patine à cette chose-là. La chose, elle existait par elle-même, elle avait besoin de rien quelque part. Mais notre idée avec Patrick, c'était de trouver une patine, de pouvoir peaufiner l'image sonore. Notre process, il a été véritablement d'avoir du temps, déjà, d'avoir du temps. Je me souviens que j'ai installé mes micros très doucement, peut-être pas le premier jour, un peu comme on apprivoise une bête sauvage. La bête sauvage, c'était pas du tout Francis, mais c'était plutôt la matière. C'était la matière qu'on était en train de toucher, où il fallait faire attention à ça. Je crois que du coup, ça a été un process assez lent. Pour ce qui est de l'enregistrement, les choses ont été très naturelles, avec un nombre de pistes pas gigantesques, je pense. Peut-être une des réussites de l'album, c'est qu'il y a en effet au mixage beaucoup de production, mais ça ne s'entend pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a quand même une patte sonore qui est assez profonde, qui est assez travaillée, qui donne l'illusion de quelque chose de très naturel. Je pense que c'est peut-être ça de notre réussite à tous les deux. C'est le coup de vernis qu'on a mis derrière.
Je ne résiste pas à l'envie d'écouter la version inédite très relax de Yann Dabo.
Est-ce qu'on a bien compté tous les mois ?
L'enfant ne vient pas.
Le copain, il vient de moi. A fil d'alors. Oh ouais, c'est pas ton casque qui est en cause. Un gandambou, c'est ma voix. Je t'assure, c'est pas ton casque qui vibre. Non.
Issu des séances de studio originelles de l'album 10 billets, c'était Francis Bébé, très décontracté, dans cette version inédite de Yann Dabo. Et c'est sur cette petite rareté que nous allons nous quitter. Merci mille fois, messieurs, d'être venus honorer la mémoire de Francis Bébé 20 ans après sa disparition.
Grand merci,
merci
à vous.
Merci de cette invitation.
Est-ce que vous avez quelques concerts à annoncer, Patrick Bébé, durant lesquels vous rendriez hommage à votre père ?
J'aimerais bien. Ça va finir par arriver.
Il faut absolument, absolument. Et puis pas qu'en Europe, sur les 5 continents.
J'espère.
Ça mérite en tout cas. Quoi qu'il en soit, nous sommes impatients de vous retrouver sur scène, car ne l'oublions pas, vous êtes un chanteur et multi-instrumentiste de talent qu'on a vu avec les plus grands, de Myriam Makeba à Papa Wemba ou les Ladysmith Black Mambazo également, pour ne citer que. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Je rappelle que 10 billets est donc à nouveau disponible sur le label Piwi, augmenté de quelques bonus et une interview inédite de Francis Bébé. La semaine prochaine, nous vous emmenons sur l'île de la Réunion grâce à la chanteuse Christine Salem, qui nous présentera Merci, son dernier album en date, avant quelques concerts en juillet aux quatre coins de la France. Mes félicitations à Nathalie Laporte pour cette belle et révérencieuse réalisation. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.
Appelez-nous, exprimez-vous.